Je suis au cinéma des Grutli, précisément au café, avec une célébrité, Emmanuel Cueno, directeur général artistique du GIF.
GIF, Geneva International Film Festival, du Festival du Film de Genève, en fait.
Voilà. Qui a été rebaptisé, qui était le Festival Tous Écrans. Et ce changement de nom, c'était une nécessité pour qu'il ait une visibilité, une accessibilité plus importante sur la scène internationale.
Oui, exactement. En fait, on a près d'une quinzaine de collaborations durant l'année. Ce que les gens savent assez peu, en fait, aux quatre coins du monde, dont beaucoup dans des pays qui sont anglophones. On a aussi beaucoup de collaborations en Suisse alémanique. Et le problème que nous avions avec Tous Écrans est tout simple, c'est que c'est intraduisible. C'est un concept qui est purement francophone. Et nous, on avait du coup une espèce de double identité qui commençait à nous porter un peu préjudice parce qu'à l'international, nous étions déjà le Geneva International Film Festival. Et puis ici, nous étions le Festival Tous Écrans. À un moment donné, il s'agissait d'unir tout ça. On a fait un choix de raison, un choix de simplification qui nous permet aussi de rendre un tout petit peu à Genève ce qu'elle nous a donné, parce que Genève est une ville qui nous a beaucoup soutenus il y a une dizaine d'années, quand le festival se portait beaucoup plus mal. Aujourd'hui, il se porte très bien. Donc voilà, c'est aussi un juste retour des choses.
Alors Emmanuel, justement, là, vous parlez de partenariat avec l'international. On peut préciser ?
Alors, nous avons une grosse collaboration avec le Festival du film de Locarno, puisque à Locarno, nous faisons leur curation pour la réalité virtuelle et nous participons à l'élaboration de leur programme professionnel. D'ailleurs, on a un programme commun avec le Festival du Zurich, le Festival de Locarno et le Festival de Genève qui s'appelle Connect to Reality pour réformer le cinéma suisse. Nous avons une grosse collaboration avec le Festival de Cannes, puisque nous y proposons, on y promeut la culture numérique suisse dans le marché du film du Festival de Cannes. Nous avons un événement à South by Southwest, qui est un énorme festival à Austin, au Texas. En ce moment, nous avons deux collaborations en cours, une avec le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, qui est un festival vraiment que nous aimons beaucoup, qui est un peu festival partenaire du Festival du film de Genève, parce que lui aussi travaille beaucoup sur la culture numérique, le cinéma et puis parfois la télévision. Et puis ensuite, dans la même semaine, nous serons à la Hub Week. La Hub Week, c'est le grand festival à Boston, qui est un festival qui a été initié par l'Université d'Harvard, notamment, et le MIT, et qui est destiné à rendre un peu justement aux Bostoniens de ce qu'ils ont donné à Harvard et au MIT. Donc c'est un festival autour des sciences, du savoir. Nous allons monter un énorme dôme en face de la mairie de Boston, avec le soutien de la ville de Genève et Swiss Next Boston. On va monter un dôme et on a fabriquer des films à 360 degrés par des créateurs numériques suisses. On est très contents de cette opération. Ils seront montrés là-bas pour la première fois. Puis ensuite, ce dôme, on le réinstalle dans la cour de la maison communale de Plainpalais pendant le GIF. Et là, on pourra y voir les mêmes films à 360 degrés avec un partenariat qu'on a avec la SAD de Montréal. On a énormément de choses. Hein. On fait quelque chose au Forum des Images à Paris. On fait quelque chose
à Paris, à la Villette.
Non, au Forum des Images, c'est dans les Halles. On collabore avec eux sur leur partie justement numérique. Beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses en Suisse. On a eu une très belle collaboration avec le NIF cette année, par exemple, avec Soler, avec Zurich il y a quelques semaines. Donc pour nous, c'est le festival à Genève, c'est 9 jours, et puis le festival de Genève, c'est toute l'année, en gros. Voilà.
365 jours par année. Et on voit que les ramifications se sont vraiment étendues, aussi au niveau de la programmation, parce qu'au départ, c'était tout écran, c'est devenu tout écran. Maintenant, ça touche vraiment à tout. Il y a bien sûr toujours le cinéma, la télévision, les séries, mais aussi tout ce qui est digital, la création numérique.
Oui, c'était une volonté assez claire à mon arrivée de renforcer cette partie-là sur le numérique. Tout comme d'ailleurs la volonté était de renforcer aussi la partie cinéma. C'est-à-dire qu'on avait atteint avec la télévision, telle qu'elle était présente dans le festival, c'était très satisfaisant. Moi j'ai trouvé que c'était formidable. Donc ça, on l'a protégé. Par contre, autour de ce programme, autour de la télévision, on a renforcé la présence du cinéma en étant plus sélectif, en étant plus volontariste, peut-être dans notre manière de montrer des films. Aussi, on a demandé plus de premières, des premières suisses. L'idée était peut-être aussi un peu plus attractive pour le public. Et puis, on a rajouté également ce troisième axe, qui est la culture numérique, la culture digitale. Et là, alors, on a pris un tiers des moyens du festival, en gros, pour les mettre dans cette culture-là. Au début, c'était très compliqué parce que ça n'intéressait pas grand monde. Et puis aujourd'hui, on a acquis une position de leader incontestée en Suisse, puisque l'Office fédéral a dit que le festival nous soutient comme un festival stratégique pour l'audiovisuel suisse. Et puis, ça nous a permis, je pense, de nous asseoir et d'asseoir la notoriété du festival. Voilà, aujourd'hui, on est très content de ce programme, cette grande curation autour de la réalité virtuelle. Alors, on a de la réalité virtuelle, on a de la réalité augmentée, on a des films immersifs à 360, on a aussi de plus en plus de grands projets, des projets monumentaux, immersifs, mais qui impliquent également des acteurs, qui impliquent, etc. Enfin, on aura beaucoup de très grands projets, si bien qu'on a dû agrandir l'espace consacré à la culture numérique cette année. On est passé d'un espace de 100 mètres carrés l'année passée à un espace de 600 mètres carrés cette année.
Et j'imagine qu'à long terme, c'est quand même pour toucher les jeunes générations.
Oui, disons que c'est toujours l'idée, je crois, du festival. C'est que nous, on, contrairement à la plupart des festivals dans le monde, nous, on ne part pas de l'histoire du cinéma. On y revient plutôt. C'est-à-dire que nous, on part des pratiques, des usages réels. Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens regardent? Et on se pose toujours cette question avec la volonté d'être le plus ouvert possible. Et effectivement, moi, je suis très inquiet, par exemple, du vieillissement du public des salles. Je pense que le public du cinéma et en partie celui de la télévision vieillissent et qu'on ne s'intéresse pas nécessairement à ce que font les jeunes ou c'est tout de suite suspect. Voilà, si c'est une œuvre qui est faite par des jeunes pour des jeunes, alors forcément ce ne serait pas très bon. Enfin, voilà,
Il y a
encore cette stigmatisation assez forte. Et pour moi, l'idée du festival, c'est vraiment de lutter contre cet entre-soi culturel. Donc effectivement, attirer des jeunes, on est très fiers, hein, parce que 52%, je crois, des festivaliers qui viennent au festival, selon une étude qu'on avait faite il y a 2 ans, avaient moins de 34 ans. Ce qui est une rareté dans le monde des festivals, de manière générale sur la culture et encore plus sur le cinéma et l'audiovisuel. On a un public qui est aussi composé de jeunes, et pas uniquement de jeunes, évidemment, il y a tous les âges dans le festival. Mais ce public-là, on a réussi à l'accueillir et nous, on en est très fiers.
Est-ce qu'on peut parler des coups de cœur? Parce qu'il y a donc ces trois rubriques, télévision, cinéma et création digitale numérique. Vous avez des coups de cœur parmi cette programmation?
C'est très difficile parce que c'est une programmation de coups de cœur. Donc en fait, vous me demandez mes coups de cœur dans les coups de cœur. Non, alors je pense qu'au niveau du cinéma... On a trois sections, disons, on a quatre sections très différentes, hein, puisque on a une très grande section pour les films d'auteurs confirmés, où là vous verrez un cinéma qui est plus ample. Par exemple, ça sera le film d'ouverture, Les Gardiennes, avec Nathalie Baye et Laura Smet qui viennent nous rendre visite, avec également Xavier Beauvois. On est très, très fiers d'ouvrir avec ce film-là, qui est une coproduction en plus suisse, hein, c'est une production de Rita Production et de la RTS. Donc on est très content d'avoir ce film-là pour ouvrir le GIF cette année. C'est un très beau film en plus, très ample, hein, sur ces femmes pendant la Grande Guerre, pendant la Première Guerre mondiale, qui vont gérer une ferme familiale. C'est trois portraits de femmes. Et c'est magnifique et ça nous rappelle la place fondamentale qu'ont eu les femmes dans cette histoire-là et qui est souvent complètement totalement occultée aujourd'hui. Et puis, je dirais que, par exemple, il faut absolument aller voir le film de Kitano, Outrage Kona, parce que Kitano, ça fait quelques années qu'il n'avait plus fait de grands films sur les Yakuza, et c'est son retour. Et le film est magnifique, il est melvillien, on dirait de polar comme ça, assez sec, et il a... mais vraiment merveilleusement réussi de bout en bout. Moi j'étais très content de retrouver ce Kitano là, mais moi je pourrais dire la même chose avec le film de Hong Sang-soo, hein, La caméra de Claire's Camera, qui était au Festival de Cannes, qui est un film que j'aime bien parce que c'est un film clandestin, c'est un film que Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert ont tourné pendant que Hong Sang-soo était au Festival de Cannes. Ils ont à la limite improvisé ce film-là. Ça s'est fait en quelques jours. Et le résultat est d'une drôlerie, d'une finesse, d'une intelligence. Aung San Suu se fiche de lui-même. Enfin, c'est très, très drôle. Et Huppert.
Beaucoup d'autodérision.
Il y a beaucoup, beaucoup d'autodérision dans le film. Et pour une fois, je trouve qu'on retrouve une Huppert joueuse. On n'est plus dans la Huppert grande la grande dame des drames, mais vraiment dans cette actrice qui sait extrêmement bien jouer la drôlerie. Et très très amusante, Isabelle Huppert. C'est ce qu'on sait assez peu, mais quand vous la rencontrez comme ça dans la vie, c'est une fille qui est très charmante et très drôle en fait.
Dans les rôles qu'on lui a accordés récemment, elle était peut-être très conditionnée.
Il y a presque une caricature parfois. C'est qu'on taille des rôles aujourd'hui pour Huppert en imaginant ce qu'est Huppert. Et je pense que Aung San Suu, qui connaissait bien Isabelle Huppert, qui la connaît bien, lui a simplement fait un film avec elle, et à partir d'elle, mais à partir de ce qu'elle est vraiment dans la vie. Donc, c'est très, 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 très amusant. Je pourrais vous citer à peu près tous les films. Hein, j'étais jalouse des frères Foenkinos avec Anne Viard. Suburbicon, bien entendu, de Georges Clooney sur un scénario des frères Cohen, qui est vraiment un très grand film du GIF cette année, par exemple, s'il devait y en avoir qu'un. Je pourrais aussi vous citer To Talk to Girls at Parties, qui est le film de John Cameron Mitchell, icône du cinéma queer, qui avait fait Short Bus notamment, et Edwin and the Angry Inch. Et là, qui nous revient avec un film très très drôle, très punk, avec Nicole Kidman et Elle Fanning à Londres, dans la Londres des Sex Pistols. Enfin, bref, il y a une tripotée de grands films au GIF cette année. Mais je dois vous avouer aussi que pour nous, c'est très important de continuer aussi à être dans le cinéma de recherche avec une compétition qui est beaucoup plus anglaise, une compétition qui est beaucoup plus... qui est vraiment une compétition de recherche où là on cherche les nouveaux talents, on cherche les auteurs et d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que la sélection qu'on a cette année est une très très belle sélection. C'est une sélection qui est dure. Je pense par exemple à un film comme Kaniba. Kaniba, c'est le portrait de ce Japonais qui, dans les années 80, avait mangé et tué une femme à Paris. Et qui a eu un destin extrêmement étrange, mais réellement étrange, puisqu'il a purgé sa peine de prison. Et ensuite, il est devenu une espèce de star au Japon. Il y a quelque chose de... Et ce film est arrivé à capturer cette personnalité à un moment de sa vie où il est vraiment vers la fin. Et on reste avec lui, et on est dans... mais on est vraiment... La caméra se rapproche de son visage jusqu'à le dévorer quasiment. C'est vraiment le cannibale du film.
C'est une mise en abîme.
C'est une mise en abîme. C'est aussi un film qui quelque part, nous abîme. C'est-à-dire que c'est un film qui ose être frontal et qui ose nous mettre dans l'âme, dans l'esprit de cet homme-là. Le résultat est incroyable. Incroyable, j'ai peu vu ça au cinéma. C'est un film éprouvant, il faut le savoir. Mais par contre, si on a envie de voir à quoi peut ressembler le cinéma quand il se libère de tout, alors il faut aller voir Kaniba, par exemple. Ça c'est certain. Mais je pourrais faire le même. Je ne vais pas tous les passer en revue, hein, parce que.
Parce que vu le programme.
Exactement. Non, puis c'est très long, il y a toutes les séries, etc. Mais. Je dirais que je pourrais avoir le même rapport avec un film comme Matt Storm, qui est dans la section Rien pour vos yeux, mm-hmm. qui est un film sur la lutte de la drogue en Arkansas aux États-Unis, qui est un film qui a été fait par HBO. Et ce film-là qu'on a découvert à Austin, cette année, moi, il m'a beaucoup marqué parce que l'équipe du film est à la fois avec les forces de l'ordre et à la fois avec des junkies ou des dealers. Dans cette espèce d'Arkansas qui est ici montré comme un endroit à la pauvreté, à la misère totale. On n'est pas dans l'idée qu'on a des États-Unis, de la campagne un peu rurale, Tom Sawyer. Il y a quelque chose d'extrêmement dur dans le film. Et en même temps qu'elle mérite d'aller jusqu'au bout de l'autopsie du rêve américain. Voilà, pour moi, un grand film sur la drogue et qui n'émet aucun jugement à aucun moment, montre juste une situation qui est devenue complètement improbable.
Dans le programme, il y a deux appellations qui m'ont interpellée. Il y avait justement Rien que pour vos yeux.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Et l'autre, dans le digital, c'était les films Full Dome.
Oui, alors les films Full Dome, c'est ça. C'est ce dôme qu'on va monter à
360.
Voilà, à Boston, qui est en ce moment même en train d'être monté à Boston. Dôme à 360 et qui permet de voir des films couchés. Alors, ce sont des films immersifs, c'est des films qui sont une espèce de 3D naturel, si vous voulez, par un système de triple projection. Et au bout d'un moment, on s'immerge complètement, c'est complètement matriciel comme expérience. On a l'impression d'être dans le cinéma, de baigner à l'intérieur. Parfois, on ne sait plus si on est couché, debout, en haut, en bas. C'est formidable. Et ce sont des œuvres qui sont souvent des œuvres non narratives, des formes de voyage visuel.
Onirique.
Complètement. Et qui nous met dans une espèce d'état, je veux dire, c'est un trip sans le LSD, quoi, hein, le film Full Dome, c'est formidable.
Voilà qui va rassurer les parents.
Voilà, bah oui, un peu.
C'est le père qui parle en vous.
Il n'y a pas d'effet secondaire là-bas. Et puis je dirais surtout que ce programme Full Dome, alors pour le coup, on en avait déjà un il y a 2 ans. Et là, on n'avait pas de film suisse, parce qu'il y a peu de production pour ce type de dôme en Suisse, et il y en a beaucoup, par exemple, au Canada, aux États-Unis, très très peu chez nous, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, avec Swiss Next Boston, François Moncarré, qui est propriétaire du Dôme Arc, ici à Genève, et puis la ville de Genève, ainsi que le DIS, espace de culture numérique au Paquis. On a eu l'idée de faire fabriquer des films par des cinéastes et des créateurs locaux qui ont joué le jeu. On a fait un concours, un deux à gagner, et ira à Boston accompagner son film et avec une assez jolie dotation. Donc voilà, on est très très content de ça. Puis Rien que pour vos yeux, effectivement, c'est une appellation, c'est vraiment... À un moment donné, quand on a réintégré du cinéma, on s'est aperçu que, bon, certes, nous avions ces très grands films, et puis nous avions ce cinéma de recherche, mais il y avait des films d'entre-deux, qui sont des vrais coups de cœur, qui sont souvent des films délicats, mais qui n'ont peut-être pas la physionomie aussi exigeante du film de compétition qu'on a ici au GIF. Et donc, il nous manquait une section. Et cette section-là, on l'a appelée Rien que pour vos yeux, parce que c'était rien que pour les nôtres à la base qu'on les avait vus, et puis on s'est dit il faut absolument montrer ces films là et je pense que cette section aujourd'hui est devenue une section où on arrive à trouver des petites perles. Je peux penser à Relière par exemple, une comédie totalement jouissive sur les religieux à Jérusalem, et les religieux qui soient juifs, catholiques ou musulmans. C'est jubilatoire, c'est très très drôle, et chacun en prend pour son grade. Et mon Dieu, si c'est sain de voir une comédie sur la religion à Jérusalem, c'est peut-être l'acte le plus sain cinéphile que j'ai fait depuis très très longtemps. Donc on est très très content de la programmer, avec en plus le réalisateur qui vient, parce que c'est une autre chose aussi du festival, c'est que cette année on a encore augmenté notre capacité d'accueil. Au fur et à mesure que le budget augmente, on augmente notre capacité d'accueil, c'est naturel. Et là, on a pour le moment 213 invités qui sont confirmés. Puis dans ces invités...
On peut les mentionner ?
On peut mentionner notamment Abel Ferrara, qui est peut-être le plus grand des invités qu'on a cette année. On va clore le festival avec Abel Ferrara, on lui remet un prix. Il vient jouer sur scène, parce qu'Abel Ferrara se double d'un musicien. Et donc, pendant la soirée de clôture, après la soirée de clôture, il jouera ses compositions, parce que c'est lui qui a composé certaines des bandes originales de ses films, et il viendra les rejouer avec une guitare et deux amis sur scène. Et puis il y a évidemment, comme je l'ai dit, Nathalie Baye, Laura Smet, Tony Gatliff qui vient nous rendre visite avec Jam, qui est à mon avis son plus beau film depuis Gadjo Dilo. C'est un magnifique périple, une espèce d'aventure entre la Grèce et la Turquie, à la recherche à la fois de la musique ou simplement de la rencontre humaine. C'est vraiment un film libre et beau, très très beau. Et
c'est à l'image de la culture...
Ouais, exactement.
Gitane,
Rome. Oui, alors pour le coup, c'est plutôt... c'est pas tout à fait la culture rome ou gitane dans ce film, c'est la culture du... je vais pas vous dire une bêtise, parce que je dois le dire de mémoire, rebetiko, quelque chose comme ça. Moi-même, là, c'est pas un très grand musicologue, mais c'est une autre veine encore, mais c'est très très effectivement, c'est très très libre. Et puis on peut penser à Jean-Pierre Mocky aussi, par exemple, qui sera là. Jean-Pierre Mocky, ça fait des années que nous on poursuit cette aventure de montrer toute la collection des films cinéastes de notre temps. Alors on avait montré pendant les trois premières années de ma direction les 105 premiers portraits de cinéastes de la collection cinéastes de notre temps. Cette collection donc de portraits de cinéastes par d'autres cinéastes. Et puis depuis, on accueille les inédits, parce que on a fini de diffuser les 105 principaux portraits. Mais chaque année, on en fait encore. Il y en a André Labarthe, notre cher ami André Labarthe, continue de produire et d'être l'âme de cette collection. Et puis, c'est vrai que nous, on a à cœur de tout montrer, dont cette année, un portrait d'Assayas, de Regadas, de Nian Léarbitre, qui était dans le jury, et de Mocky. Et Mocky nous a dit, ok, d'accord, je viens, et je parlerai de mes films et de ce film-là. Si vous voulez, alors, je pense que ça va être un très bon moment, une très belle rencontre avec le public. Pensez aussi aux frères Fuenquinos qui seront là. Gideon Raff, le créateur de Homeland, une des plus grandes séries de l'histoire de la télévision récente, vient nous rendre visite cette année. On est très 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 content d'avoir Gideon Raff. On pourrait penser aussi à Audrey Fleurot, qui est l'actrice d'Engrenage, superbe actrice, qui était aussi dans 10% récemment. Il y aura vraiment beaucoup de monde. Je peux hélas pas les citer tous, tant ils sont nombreux, mais tant mieux pour nous et tant mieux pour vous. Mais en tout cas, on est très content d'accueillir et d'être ce festival qui fait quand même, qui tient ce rôle jusqu'au bout, d'être une charnière entre les films et le public et de permettre des rencontres directes avec les créateurs. Par exemple, dans le premier week-end, on a ce Serial Day Night où on montre 22 pilotes de séries. Et là, on a massivement, je ne sais pas, une quinzaine de créateurs qui vont venir et qui vont accompagner ces séries. Le public pourra vraiment discuter avec eux à l'issue des projections. On a du temps pour des questions-réponses. Et tout ça donne évidemment un autre ton au festival. Et puis, par exemple, quand on parle de ce week-end des séries, nous, on est aussi très fiers, par exemple, d'avoir une série comme Quartier des Banques, grande série genevoise pour le coup, qui vient faire sa première mondiale chez nous, avec là aussi Brigitte Fossé qui vient, Vincent Cuchol, Laurent Gilleron. Voilà, c'est un très très beau dispositif de casting dans cette série. Et nous, on est très très heureux de l'accueillir en première mondiale et de pouvoir l'offrir vraiment au public.
Alors Emmanuel Thénault, là, vous avez vraiment mis en appétit visuel, cinématographique et digital, avec une belle palette d'invités. On en a mentionné que les principaux. Du coup, les lieux du festival se sont diversifiés. Il y en a plus.
Il y en a un peu plus, mais on essaye quand même de tout centraliser autour de Plein Palais, parce que l'idée est quand même de rester, je dirais toujours à 5 ou 10 minutes à pied maximum entre le centre du festival et les salles. Alors évidemment, le gros du festival se déroule à la maison communale de Plein Palais à Pitof. Et au Cinérama Empire, qui est juste à portée de main, qui est vraiment à 80 mètres.
Qui est magnifique.
Qui est vraiment une salle magnifique, qu'on aime beaucoup, et dont on aime en plus la programmation à l'année, parce que c'est vraiment une salle dont on soutient la dynamique de fond aussi. Hein. Pas uniquement le fait que ce soit une salle partenaire pendant le festival, mais je pense qu'elle apporte quelque chose à Genève en termes de programmation qu'il n'y avait pas, hélas, jusque-là. Et donc, ça fait du bien.
Programmation assurée par Didier Zuchua.
Didier Zuchua et Jean-Pierre Gray, qui sont des grands, des fins connaisseurs et des vieux routiers de la programmation, donc ils connaissent tout ça parfaitement et ils comprennent le public et ils savent où aller. Et je trouve que c'est un régal de les voir travailler. Donc on est un peu au cinéma, on sera un peu au Spoutnik également cette année, en tout cas pour une projection d'un film coréen complètement punk, un portrait d'un groupe de greencore, de punk coréen qui est des ennuis avec la justice. C'est une espèce d'épopée complètement folle, Bam Sang Pirate. Et puis on sera beaucoup à la salle Kramer, qui est cette salle dans la Aide, dans le bâtiment de la Aide, ici à côté du Brooklyn, hein, à 5 mètres. Et là, on y diffusera tous les films de la collection de notre intégrale Heimat, cette énorme saga allemande, 60 heures de programme que nous diffusons. C'est la première fois dans l'histoire des arts audiovisuels que cette saga est montrée comme ça à la suite dans un festival. Edgar Wright nous fera l'honneur d'être là, c'est le créateur. Il est âgé, mais alors il a accepté de venir parce que pour lui, c'est quelque part, c'est quelque chose qu'il n'espérait plus. Il nous a dit, voilà, dans ma carrière, je n'osais plus espérer qu'un festival diffuse comme ça cette saga. Il n'y a pas d'équivalent à Emmat. Je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de l'art. À partir d'un petit village, d'une famille, il recompose l'histoire de toute l'Allemagne de 1840 à 1999. C'est fascinant, mais c'est vraiment fascinant, de bout en bout. Et d'avoir pu porter cette série, cette collection qui est à mi-chemin entre la télévision et le cinéma, parce que passer un peu au cinéma, un peu à la télévision. Je pense qu'Edgar Wright a tout simplement fait un miracle, parce que porter ça sur 60 ans, 50 ans, voilà, qui est tout aussi impossible que la collection cinéaste de notre temps. Et puis moi, j'aime ces gens-là qui sont des gens qui se sont lancés des défis puis qui arrivent à les tenir année après année après année.
C'est de rendre hommage que de diffuser, juste de proposer les 60 heures.
C'est montrer pour une fois la mosaïque dans son entier. C'est-à-dire de dire, voilà, si vous pouvez voir tout ça, ou au moins des bouts, parce qu'on peut l'apprendre par ben vous allez vous apercevoir de la richesse et de la complexité de cette œuvre-là. Elle raconte vraiment l'Allemagne. Je n'ai jamais vu un pays raconté de cette manière-là à travers un programme. C'est son âme, c'est sa sensibilité même qui réside dans Emmat. Et ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je sais que Peter Moffat, grand scénariste anglais, a aujourd'hui un projet, Expert Village, où lui-même a dit « J'aimerais, mais en toute humilité, pouvoir faire un peu de ce qu'a fait Edgar Wright pour l'Allemagne
en Angleterre.
Et j'aimerais beaucoup pouvoir raconter l'Angleterre à travers The Village, comme l'a fait Edgar Wright, même si je ne suis pas sûr d'y arriver, parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir d'équivalent à Emmat. Je ne sais pas si je serai encore là dans 50 ans pour faire vivre tout ça. Mais c'est dire... Edgar Wright et Emmat ont influencé tout le cinéma allemand. Alors ça, c'est certain, mais ça va bien au-delà. Je sais qu'aux États-Unis, des grands créateurs de séries ont tous vu Emmat. Et s'y réfère d'une manière parfois complètement involontaire. Mais c'est fascinant. Enfin voilà, on est très très contents de
l'avoir. Ça nourrit
l'inconscient
collectif.
Ça, on fait avec la aide Genève, parce que c'est une autre chose importante pour nous. Faire ces collaborations, avoir des étudiants qui viennent, qui s'intéressent à ces programmes-là, qui se rendent compte que cette histoire des arts audiovisuels, pas uniquement l'histoire du cinéma, justement, qui est plus englobante que ça, eh bien, elle est riche et elle est ouverte. Et des gens l'ont ouverte à coups de marteau-piqueur ou de piolet comme Edgar Wright, et ça fait du bien.
Ouais. Et donc, pour parler d'un... Il y a aussi la salle Fondation Arditi, puis il y a aussi...
Ah oui, pardon, excusez-moi, je m'étais perdu en route.
In Heimat.
Voilà, exactement. Oui, il y a la salle Arditi, bien entendu. Mm-hmm. On est très content de retrouver la salle cette année. C'est une belle salle qui a connu un petit moment comme ça, un peu de déshérence. Mm-hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est bientôt prête à être réintroduite. Nous, on va le faire un petit peu cette année, en voyant ce que ça donne. Et on est très très content parce que quelle belle salle. Hein. L'architecture est unique. Elle est vraiment centrale. Donc il faut la faire vivre. Et il faut imaginer des programmes dans Arditi, bien entendu. C'est important pour Genève, je pense.
Et les dernières salles avec la RTS, si je ne m'abuse.
Alors oui, on a pour la conférence inaugurale du Geneva Digital Market, qui est notre rendez-vous professionnel, en fait, on va à la RTS et dans la salle sous terre, on organise la première conférence du Geneva Digital Market, dont le reste des conférences ensuite sont redéployées sur la maison communale de Plainpalais. Mais cette conférence inaugurale a toujours lieu à la RTS et on est très très heureux. Ça place ce rendez-vous professionnel dans son contexte naturel, je dirais, hein, qui est celui de la télévision et du numérique, parce que de plus en plus, quand on pense à la RTS, on pense télévision, mais en fait, il faudrait penser télévision, cinéma et digital. En fait, il faudrait penser comme notre festival. Aujourd'hui, la RTS, elle se vit sur de multiples supports, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que elle contribue à créer sur tous ces supports. C'est-à-dire que c'est la SSR est le deuxième partenaire après Berne du cinéma suisse. Sans la SSR, il n'y a pas de cinéma suisse, il n'y a pas d'image de la Suisse et de notre sensibilité qui pourrait être fabriquée. C'est évidemment la SSR est le premier partenaire de l'audiovisuel de la télévision suisse, mais c'est aussi le premier partenaire du numérique suisse. C'est-à-dire que les projets, certains projets numériques qu'on va montrer sont des projets qui sont produits, financés par la SSR à travers des labos numériques comme le lab numérique de la RTS. Donc le rôle d'une télévision de service public aujourd'hui, de télévision et de radio, je dirais, de service public, il va bien au-delà de ce qu'on peut voir sur son écran. Il faudrait voir tous les écrans, puis imaginer ça déployé dans le temps, et parfois avec une modestie et une humilité, puisque la RTS ne se met, ou la SSR ne se met pas systématiquement en avant partout. Peut-être que des fois ça leur pose un petit peu problème, on le voit aujourd'hui avec ces questions autour de la redevance. Je pense que les gens simplement connaissent pas assez bien. Ils se rendent pas compte à quel point c'est un pilier, non pas uniquement du fédéralisme suisse, je comprends très bien ces arguments, je suis tout à fait d'accord, mais surtout c'est un pilier pour l'audiovisuel, c'est-à-dire que si vous enlevez ça, plus rien ne se fera. Et moi j'étais producteur, ça me panique cette idée-là, c'est-à-dire c'est l'idée de, que demain, à part éventuellement la Confédération ou les cantons, il n'y ait plus... Comme centre névralgique de création, de fabrication et de diffusion des images, une télévision qui puisse faire son travail. Non, c'est quand même pas... je veux dire, tout ça est complètement...
C'est fondamental.
Oui, puis c'est vraiment terrorisant, paniquant de se dire qu'on est dans un pays qui est un pays riche et qui serait prêt à faire ce que les pays les plus pauvres au monde... ne veulent pas faire, c'est-à-dire se priver d'une télévision de service public. C'est du jamais vu, je pense. Ça fait du peuple suisse un peuple, mais alors qui se distingue mais totalement de ce qui se fait dans le reste du monde. Alors c'est probablement une bonne chose de pouvoir le faire, mais peut-être qu'à un moment donné, on doit aussi réfléchir à est-ce qu'on veut vraiment le faire, parce que moi je trouve qu'un pays sans télévision de service public, c'est quand même un drôle de pays. C'est un drôle de pays pour l'information, c'est un drôle de pays pour les gens de l'audiovisuel, c'est un pays qui est plus propriétaire de la fabrication et de la diffusion de ses images. Je trouve ça extrêmement étrange.
Et inquiétant. Et faut croire qu'il y a certains lobbies qui sont plus puissants en Suisse, on sait lesquels. Emmanuel Queneau, je rebondis sur ce que vous disiez, vous étiez dans la production, vous avez été journaliste à la Tribune de Genève, vous avez aussi repris les rênes à une époque de Cinébulletin, plein de casquettes. La casquette actuelle de directeur général artistique, c'est celle que vous préférez quand même, parce que ça vous permet d'avoir vraiment un baromètre de ce qui se passe dans la production, la création.
Alors bon, moi j'ai eu la chance d'aimer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai aimé être journaliste. Je ne sais pas si je serai à nouveau journaliste dans ma vie, mais j'ai profondément aimé ce métier. Et d'ailleurs, on va faire un débat sur le journalisme à l'issue de la projection, ce sera mercredi 8 novembre, à l'issue de la projection du Printemps du journalisme, qui est le nouveau film de Frédéric Gonzette, un documentaire sur la fin de l'hebdo, qu'on va montrer en première mondiale. Et on va faire un débat, parce que moi, la presse, par exemple, c'est vrai que ça continue. C'est quelque chose qui continue à m'interroger. Les rapports entre la presse, le monde... La presse, un pays, une communauté, etc.
La presse qui est malmenée actuellement.
Qui est terriblement malmenée. Et pourtant, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a un espoir réel. C'est-à-dire que quand je vois ce qui se passe à Zurich avec République, par exemple, je suis sûr qu'il existe une place pour une presse forte. Peut-être qu'il faut simplement la repenser fondamentalement. Et peut-être que ces gros éditeurs, que ces gros groupes, aujourd'hui, n'ont plus la plasticité ou la mobilité mentale pour imaginer des solutions qui sont des vraies solutions disruptives. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Vice, quand on regarde ce qui se passe avec République, les grandes aventures de la presse sont encore possibles. Et il faut les encourager. Ce qui est peut-être de moins en moins possible, c'est cette idée très étrange d'une presse dont les seuils de rentabilité seraient les mêmes que la Savonnette. Là, il y a peut-être
une
réflexion civilisationnelle à faire. Mais je pense que les grandes aventures de la presse... Voilà. Donc moi, j'ai été heureux de participer de ça. Je viens de là, mon père était un journaliste, donc voilà, je me sens proche de ce milieu-là. mais j'ai aimé infiniment produire des films. C'est très dur, c'est un métier, et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir vraiment le plus grand respect pour les gens qui produisent des images. Il faut vraiment batailler ça, que c'est pas un univers glamour où tout est facile et on part en vacances à Cannes, etc. C'est pas du tout ça. Je veux dire, la production, c'est un combat de chaque instant, arriver à fabriquer un film, le mettre dans une salle de cinéma, faire en sorte qu'il soit vu. Et c'est un combat, et c'est tout le sens aussi de notre Connect to Reality, c'est que nous, on veut aujourd'hui, après en gros 25 ans sur les mêmes sur le même système d'encouragement du cinéma en Suisse, on veut vraiment poser la question, est-ce qu'on doit continuer d'adapter ce système-là ou est-ce qu'il faut en changer pour optimiser nos chances d'avoir des films forts, des films beaux, des films à fort potentiel artistique avec des grandes prises de risques. C'est bon. Ouais. Donc j'imagine que peut-être un jour je referai de la production, peut-être que je referai du journalisme. J'aime beaucoup cette casquette de directeur de festival, mais c'est un métier qui est tout aussi difficile et tout aussi dur, malgré les apparences, je dirais.
Malgré tous ces voyages.
C'est vrai que c'est un métier, alors pour le coup, on voyage beaucoup, mais il faut également énormément se battre. Pour nous retrouver le statut fédéral, ça n'a pas été une mince affaire, c'était très complexe. Faire en sorte que le festival aujourd'hui monte en puissance en Suisse, ça n'a pas été facile. Retrouver des rapports avec des distributeurs et des vendeurs internationaux qui soient des rapports sains, qui soient des rapports respectueux, n'a pas été facile non plus.
Respectueux surtout.
Mais aujourd'hui, ils le sont. Ça a été tout un travail et ça continue à être un travail. Je pense que faire un festival, c'est aussi se battre très fort pour avoir les meilleurs programmes, se battre dans un milieu qui est assez concurrentiel. Il y a beaucoup de festivals en Suisse, il y a beaucoup de festivals en Europe, il y a beaucoup de festivals dans le monde. Donc il faut savoir. Ouais, c'est très compétitif et il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir pourquoi on le fait et pourquoi on veut tel ou tel film et ensuite convaincre les gens de nous les confier. Je pense qu'aujourd'hui, on a moins de difficultés qu'il y a quelques années au GIF de le faire. Et ça, j'en suis très fier. Je suis très content pour Genève aussi, parce que je pense que c'est important pour les jeunes voix de voir qu'ils sont respectés par les distributeurs et vendeurs internationaux et distributeurs suisses qui placent des films en première Suisse ici. Ça, c'est à mon avis un beau signal aussi, un signal assez fédéral également. Il n'y a pas que Locarno, il n'y a pas que Zurich, il y a aussi Genève comme grande ville de cinéma. Et nous, ça nous fait très plaisir, évidemment, de participer à ça. Mais il faut savoir que ça a un coût, c'est sûr. On travaille tout le temps. Moi, j'ai une équipe de gens qui sont vraiment tous des lions. Je veux dire, ils se battent comme des lions, tout le temps. On compte pas nos heures, on y va. Et on fait un festival d'une manière assez radicale. Vraiment, on est tous engagés dans le projet. C'est pas un projet personnel, par exemple.
C'est collectif.
Le GIF, c'est un vrai projet collectif. Et je dirais que c'est même plus un projet collectif qu'un projet personnel. C'est-à-dire que le GIF pourra tout à fait se passer de moi, et j'espère, parce que je pense que le jour où il a plus besoin de direction comme la mienne, alors ça veut dire que vraiment tout va bien et ça veut dire que le collectif a gagné. Et je pense que ça c'est fait aujourd'hui. Je pense que le collectif dans le festival a gagné. On a des équipes qui sont là depuis longtemps. Il y a de la continuité dans le travail. Les gens savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils le font extrêmement bien. Ce qui fait que le festival aujourd'hui a aussi récupéré cette place, c'est que ce travail-là, c'est à la fois. Disons que cette position, elle couronne à la fois une stratégie qui était sans doute la bonne, d'ouvrir, de recherche, etc. Et puis aussi le travail d'une équipe qui est extrêmement efficace.
Emmanuel Cohen, last question. Pourquoi GIF? Parce que pour moi, vu que c'est Geneva, ça serait GIF. GIF, ça fait un peu suisse-allemand. C'est pour avoir la touche helvétique?
Non, en fait, vous avez raison. En fait, nous n'avons pas tranché. C'est-à-dire que GIF, quelque part, on le dit comme on veut. Pour nous, quand on parle ici, on parle simplement du Festival international du film de Genève, c'est plus facile. Moi, je dis GIF par habitude.
Voilà. Ça, c'est leur Hlitutsch.
Et voilà, exactement. Mmh. Maintenant, on en est pratiquement là. Parce que je suis souvent en Suisse alémanique, effectivement, mmh. avec mon bâton de pèlerin, puis c'est plus facile de faire ça comme ça. Maintenant, si quelqu'un dit GIF, je reconnaîtrai tout à fait de quoi on parle.
Ok. Merci Emmanuel Kélo, nous avez consacré du temps. On rappelle que la 23e édition du festival, ça sera du 3 au 11 novembre. Donc vous êtes sur le starting block.
Ah oui, non, bon, là on est complètement dedans. Hein. C'est jour et nuit.
Merci Emmanuel.
Merci à vous. Voilà.
Alors, oui.